Nation sainte, royaume des sacrificateurs, avant de plancher sur la notion de la Trinité, comme je l'avais promis, je commence d'abord par insister sur le fait que toute la parole divine était scellée par le Créateur et que personne ne pouvait en connaître l'explication avant le temps fixé par celui-ci. Ce qui est curieux, et que dans toutes les prédications que vous avez suivies jusqu'à ce jour, personne et personne alors n'a jamais relevé que la révélation divine qui nous a été transmise par Israël était scellée, et que donc toutes les interprétations faites par les êtres humains ne pouvaient être qu'erronées. Voici ce qu'en disent les Écritures. Dans Ésaïe 29, 11 à 12, il est écrit ce qui suit. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Question. Comment un homme qui sait lire peut-il déclarer qu'il ne peut lire le livre de la révélation divine? C'est tout simplement parce qu'il va le lire, mais il ne pourra pas comprendre les mots de la révélation divine, car leur signification était cachée par le Créateur. Mais quelqu'un peut dire que ce qui est dit dans Ésaïe ne concernait que la première alliance. D'accord. Mais que dit la seconde alliance à ce sujet? La réponse est dans Apocalypse 5, 1 à 4, comme suit. Puis je vis un ange. Je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui cria d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre et le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Je pose ainsi la question suivante. Quel est ce livre que personne ne fut trouvé digne de le décacheter? La réponse est claire. Il s'agit de toute la parole de la révélation divine. En clair, toute la parole mosaïque et ses prophéties accompagnatrices, ainsi que toute la parole christique que Jésus avait enseignée et la révélation du Créateur à Jean dans l'Apocalypse étaient cachetées, scellées cette fois en dedans et en dehors. Si le Créateur ferme, scelle ou cachette sa révélation, quel est cet être humain qui peut l'ouvrir, le déceler ou le décacheter? La réponse est personne. Et personne alors. Et pourtant, dans toutes les prédications, les humains tentent de le faire car chacun nous livre sa propre compréhension d'une parole qui est pourtant scellée cette fois en dedans et en dehors. Leurs interprétations peuvent-elles être vraies ou fausses? Veuillez répondre de par vous-même. Vous comprenez donc que les explications de tous les mots de la révélation divine qu'on nous a donnés jusque-là étaient fausses. Et c'est cela que le Créateur appelle l'iniquité, le parjure, la profanation. Mais le Créateur avait prévu qu'il ne nous laisserait pas aveugles et sourds vis-à-vis de sa parole éternellement. C'est pourquoi il déclare ce qui suit pour le temps messianique dans Ésaïe 29, 18. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. Et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Qui sont ces sourds et aveugles par rapport à la révélation divine? C'est nous tous, sans exception, car celle-ci était scellée sept fois en dedans et en dehors. De quelle obscurité et de quelles ténèbres devons-nous être délivrés? Nous devons être délivrés de fausses explications, de fausses interprétations, des affabulations de toutes sortes, émises par les êtres humains, qui, dans leur orgueil, ont tenté et tentent encore de décaster la révélation divine scellée. Mais qui pourra alors lire le livre du Créateur pour nous? La réponse nous est donnée dans Apocalypse 5, 5 à 6, en ces mots. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône des quatre êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Retenez que celui qui est assis sur le trône, c'est le Père éternel et non le Créateur, car ce dernier n'a pas de trône. D'ailleurs, pour le montrer à qui? Lui, le Créateur qui est éternellement invisible. Et le trône du Père éternel, qui est au ciel, connaissant ciel, n'est pas une chaise surélevée, mais plutôt la parole céleste qui contient la vraie connaissance divine supracéleste qu'est le Père éternel. Toutes ces images ne sont que de simples images qui n'ont qu'une existence virtuelle, c'est-à-dire en tant qu'image simplement, et qui n'ont aucune existence concrète. Ce ne sont que des images qui véhiculent un message connaissantiel. Retenez donc qu'il n'y a pas à côté du Créateur des trônes et des vieillards concrets, ni quatre êtres vivants concrets, ni encore un agneau immolé avec sept cornes et sept yeux. Le Père éternel, qui est la première parole divinité, est composé de 24 trônes et 24 vieillards, c'est-à-dire 24 langues et 24 connaissances. Ce sont donc les composants de la parole divinité Père. Les quatre êtres vivants ne sont pas concrets du tout. Ce sont les composants du Père éternel lorsqu'il est divisé en quatre avec six ailes chacun, ce qui fait également 24. Pourquoi 24 ailes? C'est parce que ce sont des paroles qui proviennent du trône céleste du Père éternel. Et voici les quatre êtres vivants ou les quatre anges. 1. La parole mosaïque et ses prophéties accompagnatrices décachetées. Le premier livre de la Révélation. 2. La parole christique et la prophétie à Jean, sa prophétie accompagnatrice, c'est le second livre de la Révélation divine. 3. La Révélation Saint-Esprit, c'est le troisième livre de la Révélation divine. 4. La Révélation Père éternel, c'est le quatrième livre de la révélation divine. Qui est alors le rejeton de David? La bête et ses adorateurs nous ont enseigné que c'était Jésus le rejeton de David. Mais vous allez vous en rendre compte qu'il n'en est rien, car voici ce que disent les Écritures dans Jérémie 33, 15. En ces jours et en ces temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans tout le pays. Qui fait éclore à David le germe de justice? La réponse, c'est le Créateur. Pourquoi David ne peut-il pas pondre de lui-même ce germe? Parce que David est la parole divinité Père éternel qui ne peut pondre de lui-même car il est inactif en tant que parole. C'est donc le Créateur qui prend une partie de la révélation Père éternel pour nous la donner. Et c'est cela la révélation Saint-Esprit qui nous envoie aujourd'hui, avant l'avènement de la révélation Père éternel, qui viendra combattre Gog et Magog. Le rejeton de David est donc la révélation discernatrice de toute la révélation divine qui vient nous permettre de lire et de comprendre toute la révélation divine passée. Pour que vous puissiez mieux comprendre que le rejeton de David est un livre de révélation, voici une autre présentation de lui Dans Zacharie 3, 8, 9, en ces termes. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il a scintillé sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un seul jour. Dans Apocalypse 5, 5 à 6, vous avez entendu que le restant de David avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu. Les sept cornes sont les sept langues, et les sept yeux sont les sept connaissances qui viennent décacheter sept fois les deux premiers livres de Révélation. La pierre qui a sept yeux, c'est une autre présentation du germe ou du restant de David qui a sept yeux pour des raisons que vous connaissez déjà. Sur cette pierre, le Créateur grave lui-même ce qui doit y être gravé. Ce sont donc des écrits qui constituent un livre de révélation, le troisième qui vient ôter l'iniquité produite par les hommes et attachée aux deux premiers livres. Et l'iniquité, vous le savez déjà, ce sont les fausses explications, les fausses interprétations, les fausses doctrines ajoutées par l'orgueil humain à la révélation divine, ce qui l'a impurifiée. Donc, le ruisseau de la vie ou le germe, c'est aussi le rouleau volant qui vient ôter l'iniquité comme décrit dans Zacharie 5. Vous saisissez donc que les deux premiers livres de la révélation divine, ainsi que toutes les prophéties accompagnatrices, ont donc été impurifiées par la bête et ses adorateurs. Pour la parole mosaïque et ses prophéties accompagnatrices, le judaïsme a produit la kabbale juive. Que veut dire kabbale? D'après le dictionnaire, c'est la tradition parmi les Juifs substituant un sens mystique et allégorique au sens propre de l'Ancien Testament. Qu'ont donc fait les Juifs? Ils ont ajouté un sens mystique et allégorique. Ils l'ont substitué au sens propre de l'Ancien Testament qui était encore cacheté. C'est cela l'iniquité et la profanation de la révélation divine. Qu'a fait alors le christianisme? Par le truchement des décisions de tous les conciles, il a produit la kabbale chrétienne, en imposant une compréhension humaine erronée aux paroles mosaïques et christiques, ainsi qu'à toutes leurs prophéties accompagnatrices. Vous vous rendez compte que les épîtres sont exclus par le Créateur, car le temps des épîtres, c'est le temps des nations à qui le Créateur a donné le pouvoir de piétiner le parvis extérieur de la ville sainte, qui n'est autre que ses deux premiers oints, ses deux premiers livres de révélation. Aujourd'hui, donc, la révélation Saint-Esprit nous apporte la vérité divine qui nous a franchis de l'iniquité. Et la résurrection de ces deux oints, de ces deux premières paroles, amène ipso facto la résurrection connaissancielle de tous les élus qui acceptent cette parole ressuscitée. Et voici, le temps de la résurrection connaissancielle est là, le temps où les morts connaissanciels entendent la voix du Fils de l'homme, c'est-à-dire les vraies explications de la parole Fils de l'homme. C'est donc cela, sa voix. Hier, la révélation divine était aphone, c'est-à-dire sans voix, puisque cachetée. Mais aujourd'hui, la parole divinité Fils nous revient avec les anges de sa gloire, c'est-à-dire les révélations divines pures qui nous expliquent clairement ce qui était caché ou secret. Elle revient au monde avec sa voix, avec sa vie ou connaissance qui était cachée lorsqu'elle était cachetée. Vous devez donc savoir aujourd'hui que si les hommes n'ont jamais fait allusion au fait que la parole de l'Éternel était scellée, c'est uniquement puisque par orgueil, ils pensaient que comme l'Éternel utilisait une lexicologie physico-matérielle et sociale, la nôtre bien sûr, c'est que les explications qu'on doit donner à sa révélation devait être également physico-matériel et social. Alors que toute cette lexicologie physico-matérielle et sociale avait une sémantique métaphysique cachée. Ce que fait la révélation Saint-Esprit aujourd'hui, c'est mettre à notre connaissance la sémantique métaphysique, le sens métaphysique de toutes les paroles de la révélation divine. Et vous le remarquez, et vous continuerez à le remarquer, que le sens métaphysique est différent du sens lexico, du sens de la lexicologie physico-matérielle et sociale. Ainsi, nous avons tous été bernés en ramenant tout au physico-matériel et social, alors que les explications de la parole de la révélation divine étaient connaissancielles. La question avec Dieu, c'est une question connaissancielle. Vous devez ôter de vos esprits que la résurrection qui nous avait été promise par l'Éternel était une résurrection physique. Non. Le salut que le Seigneur nous avait promis, c'est justement l'explication claire de sa parole, ce qui nous permet aujourd'hui de lire sa révélation, de la comprendre et de vivre sa sainte connaissance et vraie. C'est vrai que ça fait mal au cœur, puisque l'humanité a toujours pensé que un jour, son corps et ses corps physiques serait ressuscité, ça je vous l'ai toujours dit, c'est une impossibilité éternelle. Car tout corps physique achève sa course sur la table chimique de Mendeleïev, ou mieux, sur le tableau périodique des éléments. Personne donc ne ressuscitera un jour physiquement. Et quelqu'un peut dire, mais Jésus a été ressuscité. Mais qu'est-ce donc la résurrection du corps physique? Réfléchissez. Les hommes physiques que nous sommes, lorsqu'ils meurent, qu'est-ce qui se passe? Avant l'enterrement, on voit tous ces corps physiques inertes. Après les avoir enterrés, nous ne les voyons plus. Si on peut les voir, c'est uniquement dans des songes ou dans des visions. Et ce ne sont pas eux que l'on voit dans des songes et dans des visions. Ce ne sont que leurs images projetées par le Créateur pour des raisons que seul il connaît. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Jésus est mort, comme tout être humain. Il a été enterré. Et depuis qu'il a été enterré, personne ne l'a vu. Réfléchissez. Si Jésus était mort, comme Jésus était mort, s'il a été ressuscité, il devait être revenu visible. Et imaginez-vous que si cela avait été le cas en Israël, ce serait un grand événement, un événement qui serait resté dans leur tradition orale, un événement que les générations qui se sont succédées allaient se le passer, allait se le livrer. Mais non, Jésus est mort et personne ne l'a vu, si ce n'est dans des songes ou dans des visions. Mais cela suit le processus normal de la disparition de la création qui a existé. Alors, Est-ce que peut-on ressusciter invisible? Un être visible, peut-il ressusciter invisible? Là, alors, il ne s'agit plus de la résurrection. Puisque quand un corps physique ressuscite, il redevient corps physique vivant et visible. Tous les morts que nous connaissons, après leur mort, après leur inhumation, ils ne sont plus visibles. Et c'est le cas de Jésus. Après son inhumation, il n'a plus été visible. Vous devez savoir, vous devez ôter le voile qui voile vos yeux. Car un être visible qui ressuscite, il doit redevenir visible par tous. Donc quand quelqu'un meurt, vous dites qu'il est ressuscité, alors qu'il devient invisible comme tous les autres morts, alors de quelle résurrection vous parlez? C'est pourquoi vous devez comprendre que la résurrection que l'Éternel nous avait promise, c'est une résurrection connaissancielle et non physique. Voilà ce que je pouvais vous donner en ce qui concerne le scellement de la parole de Dieu et de la résurrection connaissancielle. Merci.